Locke, traité du gouvernement civil, chapitre 16. Des conquêtes. 175. Les gouvernements n'ont pu avoir d'autre origine que celle dont nous avons parlé. Ni les sociétés politiques n'ont été fondées sur autre chose que sur le consentement du peuple. Cependant, comme l'ambition a rempli le monde de tant de désordres et a excité tant de guerres qui font une si grande partie de l'histoire, on n'a guère fait réflexion à ce consentement. Et plusieurs ont pris la force des armes pour le consentement du peuple et ont considéré les conquêtes comme la source et l'origine des gouvernements. Mais les conquêtes sont aussi éloignées d'être l'origine et le fondement des États, que la démolition d'une maison est éloignée d'être la vraie cause de la construction d'une autre en la même place. À la vérité, la destruction de la forme d'un État prépare souvent la voie à une nouvelle, mais il est toujours certain que, sans le consentement du peuple, on ne peut jamais ériger aucune nouvelle forme de gouvernement. 176. Il n'y a personne qui demeurera d'accord qu'un agresseur qui se met dans l'état de guerre avec un autre et envahit ses droits puisse jamais, par une injuste guerre, avoir droit sur ce qu'il aura conquis. Peut-on soutenir avec raison que des voleurs et des pirates aient droit de domination sur tout ce dont ils peuvent se rendre maîtres, ou sur ce qu'on aura été contraint de leur accorder par des promesses que la violence aura extorquées? Si un voleur enfonce la porte de ma maison et que, le poignard à la main, il me contraigne de lui faire, par écrit, donation de mes biens, y aura-t-il droit pour cela? Un injuste conquérant, qui me soumet à lui par la force et par son épée, n'en a pas davantage. L'injure est la même, le crime est égal, soit qu'il soit commis par un homme qui porte une couronne ou par un homme de néant. La qualité de celui qui fait tort ou le nombre de ceux qui le suivent ne change point le tort et l'offense, ou, s'il le change, ce n'est que pour l'aggraver. Toute la différence qu'il y a, c'est que les grands voleurs punissent les petits pour tenir les gens dans l'obéissance, et que ces grands voleurs sont récompensés de lauriers et de triomphes, parce qu'ils sont trop puissants en ce monde pour les faibles mains de la justice, et qu'ils sont maîtres du pouvoir nécessaire pour punir les coupables. Quel remède puis-je employer contre un voleur qui aura percé ma maison? Appellerai-je aux lois pour avoir justice? Mais peut-être qu'on ne rend point justice, ou que je suis impotent et incapable de marcher. Si Dieu m'a privé de tout moyen de chercher du remède, il ne me reste que le parti de la patience. Mais mon fils, quand il sera en état de se faire faire raison, pourra avoir recours aux lois. Lui ou son fils peut relever appel jusqu'à ce qu'il ait recouvré son droit. Mais ceux qui ont été conquis ou leurs enfants n'ont nul juge ni nul arbitre sur la terre auquel ils puissent s'appeler. Alors, ils doivent appeler au ciel comme fit Jephthé, interjeter appel jusqu'à ce qu'ils aient recouvré le droit de leurs ancêtres, qui était d'avoir un pouvoir législatif établi sur eux, aux décisions duquel ils acquiesçaient quand le plus grand nombre des personnes qui étaient revêtues de ce pouvoir les avaient formées. Si l'on objecte que cela est capable de causer des troubles perpétuels, je réponds que cela n'en causera pas plus que peut le faire la justice lorsqu'elle tend les bras à tous ceux qui veulent avoir recours à elle. Celui qui trouble son voisin sans sujet est puni. À cause de cela, par la justice de la cour devant laquelle on a comparu. Et quant à celui qui appelle au ciel, il doit être bien assuré qu'il a droit, mais un droit tel qu'il peut être hardiment porté à un tribunal qui ne saurait être trompé, et qui certainement rendra à chacun selon le mal qu'il aura fait à ses concitoyens, c'est-à-dire à quelque partie du genre humain. Tout ceci fait voir clairement qu'un homme qui fait des conquêtes dans une injuste guerre ne peut avoir droit sur ce qu'il a conquis, et que les personnes qui sont tombées sous sa domination ne lui doivent aucune soumission ni aucune obéissance. 177. Mais supposons que la victoire favorise la cause juste, et considérant un conquérant dans une juste guerre, pour voir quel pouvoir il acquiert et sur qui. Premièrement, il est visible qu'il n'acquiert aucun pouvoir sur ceux qui ont été les compagnons de ses conquêtes. Ceux qui ont combattu pour lui ne doivent point souffrir parce qu'il a remporté des victoires. Ils sont, sans doute, aussi libres qu'ils l'étaient auparavant. Ils servent d'ordinaire sous cette condition qu'ils auront part au butin et aux autres avantages dont les victoires sont suivies. Et un peuple victorieux ne devient point esclave par des conquêtes et n'est pas couvert de lauriers pour faire voir qu'il est destiné au sacrifice pour le jour de triomphe de son général. Ceux qui croient que l'épée établit des monarchies absolues élèvent infiniment les héros qui sont les fondateurs de ces sortes de monarchies et leur donnent des titres superbes et magnifiques. Ils ne songent point aux officiers ni aux soldats qui ont combattu sous les enseignes de ces héros, dans les batailles qu'ils ont gagnées, qui les ont assistés à subjuguer les pays dont ils se sont rendus maîtres, et qui ont demandé part et à la gloire et à la possession de ce qui a été conquis. Quelques-uns ont dit que la monarchie anglaise est fondée sur la conquête des Normands, et que, par cette conquête fameuse, les rois d'Angleterre ont le droit de domination absolue. Mais, quand cela serait aussi vrai qu'il paraît faux par l'histoire, et que Guillaume aurait eu droit de faire la guerre à l'Angleterre, la domination acquise par sa conquête n'aurait pu s'étendre que sur les Saxons et les Bretons, qui habitaient alors cette île. Les Normands qui vinrent avec ce héros dans l'espérance de la conquérir, et tous ceux qui sont ensuite descendus d'eux, ont été des gens libres, et n'ont point été subjugués par la conquête, quelque domination qu'on prétende qu'elle ait procurée. Que si quelqu'un allègue qu'il est homme libre, par la raison qu'il est descendu de ces Normands, il sera fort difficile de prouver le contraire. Et ainsi, il est visible que les lois, qui n'ont point fait de distinction entre les personnes, n'ont établi entre elles aucune différence à l'égard de la liberté et des privilèges. 178. Mais, supposant ici, ce qu'on voit arriver rarement, que les conquérants et les conquis ne viennent point à se joindre en société, à composer un corps politique, et à vivre sous les mêmes lois et avec la même liberté. Voyons quelle sorte de pouvoir un légitime conquérant acquiert sur ceux qu'il a subjugués, et si c'est un pouvoir purement despotique. Certainement, il a un pouvoir absolu sur la vie de ceux qui, par une injuste guerre, ont perdu le droit qu'ils y avaient, mais non sur la vie ou sur les biens, de ceux qui n'ont point été engagés dans la guerre, ni même sur les possessions de ceux qui ont été actuellement engagés. 179. En second lieu, je dis qu'un conquérant n'acquiert du pouvoir que sur ceux qui ont actuellement assisté ses ennemis dans une guerre injuste et ont effectivement concouru et consenti à l'injuste violence dont on a usé envers lui. En effet, le peuple n'ayant point donné à ses conducteurs le pouvoir de rien faire d'injuste, par exemple d'entreprendre une injuste guerre, et comment pourrait-il leur donner un pouvoir et un droit qu'il n'a point? Il ne doit pas être chargé et regardé comme coupable de la violence qu'on a employée dans une guerre injuste, qu'autant qu'il paraît l'avoir excitée ou fomentée. Il ne doit pas être censé plus coupable d'une guerre de cette nature qu'il doit l'être de la violence et de l'oppression dont auraient usé ses conducteurs envers lui-même ou envers une partie de leurs sujets, ne les ayant pas plus autorisés à un égard qu'à l'autre. Les conquérants, à la vérité, ne se mettent guère en peine de faire ces sortes de distinctions. Au contraire, ils ne se plaisent qu'à confondre tout dans la guerre, afin d'envahir et d'emporter tout. Mais cela ne change ni ne diminue point le droit, car un conquérant, n'ayant de droit et de pouvoir que sur ceux qu'il a subjugués, qu'en tant qu'ils ont employé la force contre lui, pour faire ou soutenir des injustices, il peut avoir un pouvoir légitime sur ceux qui ont concouru et consenti à ces injustices et à cette violence. Mais tout le reste est innocent, et il n'a pas plus de droit sur un peuple conquis qui ne lui a fait nul tort et qui par cette raison n'a point perdu son droit à la vie, qu'il en a sur aucun autre peuple qui, sans lui faire tort et sans le provoquer, aura vécu honnêtement avec lui. 180. En troisième lieu, le pouvoir qu'un conquérant acquiert sur ceux qu'il subjugue dans une juste guerre est entièrement despotique. Par ce pouvoir, il a le droit de disposer absolument et comme il lui plaît de la vie de ceux qui, s'étant mis dans l'état de guerre, ont perdu le droit propre qu'ils avaient sur leur personne. Mais il n'a pas un semblable droit à l'égard de leur possession. Je ne doute point que, d'abord, cette doctrine ne paraisse étrange. Elle est trop opposée à la pratique ordinaire pour n'être pas regardée comme un paradoxe. Quand on parle des pays qui sont tombés sous la domination d'un prince, on n'a guère accoutumé d'en parler autrement que comme de pays conquis. Il semble que les conquêtes seules portent avec elles et confèrent infailliblement le droit de possession, que ce que pratique le plus fort et le plus puissant doit être la règle du droit, et que, parce qu'une partie de la condition triste des gens subjugués consiste à ne contester point à leurs vainqueurs leurs prétentions et à subir les conditions qu'ils prescrivent, l'épée à la main, ces prétentions et ces conditions deviennent par là justes et bien fondées. 181. Quand un homme emploie la force contre un autre, il se met par là en état de guerre avec lui. Or, soit qu'il commence l'injure par une force ouverte, ou que l'ayant faite sourdement et par fraude, il refuse de la réparer et la soutienne par la force, c'est la même chose, et l'un et l'autre est en guerre. En effet, qu'un homme enfonce la porte de ma maison tout ouvertement, me jette dehors avec violence, ou qu'après s'y être glissé sans bruit, il la garde, et m'empêche par force d'y entrer, ce n'est qu'une seule et même chose. Au reste, nous supposons ici que ceux dont nous parlons se trouvent dans cette sorte d'état où l'on n'a point de commun juge sur la terre auquel on puisse appeler. C'est donc l'injuste usage de la violence qui met un homme dans l'état de guerre avec un autre, et par là, celui qui en est coupable perd le droit qu'il avait à la vie, car, abandonnant la raison, qui est la règle établie pour terminer les différends et décider des droits de chacun, et employant la force et la violence, c'est-à-dire la voie des bêtes, il mérite d'être détruit par celui qu'il avait dessein de détruire, et d'être regardé et traité comme une bête féroce qui ne cherche qu'à dévorer et à engloutir. 182. Mais parce que les fautes d'un père ne sont pas les fautes de ses enfants, qui peuvent être raisonnables et paisibles, quoiqu'il ait été brutal et injuste. Un père, par sa mauvaise conduite et par ses violences, peut perdre le droit qu'il avait sur sa personne et sur sa propre vie. Mais ses enfants ne doivent point être enveloppés dans ses crimes, ni dans sa destruction. C'est bien que la nature, qui veut la conservation de tous les hommes autant qu'elle est possible, a fait appartenir à ses enfants, pour les empêcher de périr, continue toujours à leur appartenir. Car, supposons qu'ils ne se soient point joints à leur père dans une guerre injuste, soit parce qu'ils étaient trop jeunes et dans l'enfance, soit parce que, par leur propre choix, ils n'ont pas voulu se joindre à lui, il est manifeste qu'ils n'ont rien fait qui doive leur faire perdre le droit qu'ils ont naturellement sur les biens dont il s'agit. Et un conquérant n'a pas sujet de les leur prendre par le simple droit de conquête faite sur un homme qui avait résolu et tâché de le perdre par la force. Tout le droit qu'il peut avoir sur ses biens n'est fondé que sur les dommages qu'il a soufferts par la guerre, et pour défendre ses droits, et dont il peut demander la réparation. Or, jusqu'à quel point s'étend ce droit sur les possessions des subjugués? C'est ce que nous verrons dans l'instant. Concluons seulement, ici, qu'un vainqueur qui, par ses conquêtes, a droit sur la vie de ses ennemis et la leur peut ôter, quand il lui plaît, n'a point droit sur leurs biens pour en jouir et les posséder. Car c'est la violence brutale dont un agresseur a usé qui a donné à celui à qui il a fait la guerre le droit de lui ôter la vie et de le détruire, s'il le trouve à propos, comme une créature nuisible et dangereuse. Mais c'est seulement le dommage souffert qui peut donner quelques droits sur les biens des vaincus. Je puis tuer un voleur qui se jette sur moi dans un grand chemin. Je ne puis pas, pourtant, ce qui semble être quelque chose de moins, lui ôter son argent en épargnant sa vie et le laisser aller. Si je le faisais, je commettrais, sans doute, un larcin. La violence de ce voleur et l'état de guerre dans lequel il s'est mis lui ont fait perdre le droit qu'il avait sur sa vie, mais n'ont point donné droit sur ses biens. De même, le droit des conquêtes s'étend seulement sur la vie de ceux qui se sont joints dans une guerre, mais non sur leurs biens. Sinon, autant qu'il est juste de se dédommager et de réparer les pertes et les frais qu'on a faits dans la guerre, avec cette restriction et cette considération, que les droits des femmes et des enfants innocents soient conservés. 183. Qu'un conquérant de son côté, tant de justice et de raison qu'on voudra, il n'a point droit néanmoins de se saisir de plusieurs choses que ceux qui ont été subjugués n'ont mérité d'en perdre. Leur vie est à la merci du vainqueur. Leurs services et leurs biens sont devenus son bien propre, et il peut les employer pour réparer le dommage qui lui a été causé. Mais il ne peut prendre ce qui appartient aux femmes et aux enfants qui ont leurs droits et leur part aux biens et aux effets dont leur mari ou leur père ont joui. Par exemple, dans l'état de nature, tous les états sont dans l'état de nature les uns au regard des autres. J'ai fait tort à un homme, et, ayant refusé de lui donner satisfaction, nous en sommes venus à l'état de guerre, dans lequel quand même je ne ferai que me défendre, je dois être regardé comme l'agresseur. Je suis vaincu et subjugué. Ma vie est certainement à la merci de mon vainqueur, mais non ma femme et mes enfants, qui ne se sont point mêlés de cette guerre. Je ne puis leur faire perdre le droit qu'ils ont sur leur vie, comme ils ne peuvent me faire perdre celui que j'ai sur la mienne. Ma femme a sa dot, ou sa part à mes biens, et elle ne doit pas la perdre par ma faute. Mes enfants doivent être nourris et entretenus de mon travail et de ma subsistance. Or, c'est ici le même cas. Un conquérant a droit de demander la réparation du dommage qu'il a reçu, et les enfants ont droit de jouir des biens de leur père pour leur subsistance. Et quant à la dot ou à la part des femmes, soit que le travail ou leur contrat la leur est procuré ou assuré, il est visible que leurs maris ne peuvent la leur faire perdre. Que faut-il donc pratiquer en cette rencontre? Je réponds que la loi fondamentale de la nature voulant que tout autant qu'il est possible soit conservé, il s'ensuit que s'il n'y a pas assez de biens pour satisfaire les prétendants, c'est-à-dire pour réparer les pertes du vainqueur et pour faire subsister les enfants, le vainqueur doit relâcher de son droit et ne pas exiger une entière satisfaction, mais laisser agir le droit seul de ceux qui sont en état de périr s'ils sont privés de ce qui leur appartient. Mais supposons que les dommages et les frais de la guerre ont été si grands pour le vainqueur qu'il a été entièrement ruiné et qu'il ne lui est pas resté un sol, et que les enfants des subjugués soient dépouillés de tous les biens de leur père et en état de périr et d'être précipités dans le tombeau. La satisfaction néanmoins qui sera due à ce conquérant ne lui donnera que rarement droit sur le pays qu'il a conquis. Car les dommages et les frais de la guerre montent rarement à la valeur d'une étendue considérable de pays, du moins dans les endroits de la terre qui sont possédés et où rien ne demeure désert. La perte des revenus d'un ou de deux ans, il n'arrive guère qu'elle s'étende jusqu'à 4 ou jusqu'à 5 ans, est la perte qu'on fait d'ordinaire. Et quant à l'argent monnayé et à d'autres semblables richesses qui auront été consumées ou qui auront été enlevées, elles ne sont pas des biens de la nature, elles n'ont qu'une valeur imaginaire. La nature ne leur a pas donné celle qu'elles ont aujourd'hui. Elles ne sont pas plus considérables en elles-mêmes que paraîtraient être, à des princes de l'Europe, certaines choses de l'Amérique que les habitants y estiment fort, ou que ne paraissait être du commencement aux Américains notre argent monnayé. Or, les revenus de 5 années ne peuvent pas balancer la valeur de la jouissance perpétuelle d'un pays qui est habité et cultivé partout. On en tombera surtout facilement d'accord si l'on fait abstraction de la valeur imaginaire de l'argent monnayé et l'on verra que la disproportion est plus grande que n'est celle qu'il y a entre 5 et 5 000. Après tout, les dommages que les hommes reçoivent les uns des autres dans l'état de nature, tous les princes et tous les gouvernements sont dans l'état de nature les uns à l'égard des autres, ne donnent jamais à un conquérant le droit de déposséder la postérité de ce qu'il aura subjugué et de la priver de la jouissance de ce qui devait être son héritage et l'héritage de tous ses descendants jusqu'à la dernière génération. Les conquérants, à la vérité, sont fort disposés à croire qu'ils sont maîtres légitimes et perpétuels de tout. Et telle est la condition de ceux qui sont subjugués, qu'il ne leur est pas permis de soutenir et de défendre leurs droits. Ils ne laissent pourtant pas d'être certains qu'en ces rencontres, les conquérants n'ont d'autre droit que celui qui a le plus fort sur le faible. Celui qui est le plus fort est censé avoir droit de se saisir de tout ce qui lui plaît. 185. Donc, un conquérant, même dans une juste guerre, n'a, en vertu de ses conquêtes, aucun droit de domination sur ceux qui se sont joints à lui et ont été les compagnons de ses combats, de ses victoires, ni sur les gens d'un pays subjugué qui ne se sont pas opposés à lui, ni sur la postérité de ceux-mêmes qui se sont opposés à lui et lui ont fait actuellement la guerre. Ils doivent tous être exempts de toutes sortes de suggestions au regard de ce conquérant. Et si leur gouvernement précédent est dissous, ils sont en droit et doivent avoir la liberté d'en former et d'en ériger un autre, comme ils le jugeront à propos. 186. À la vérité, les conquérants obligent d'ordinaire, par force et l'épée à la main, ceux qu'ils ont subjugués à subir les conditions qu'il leur plaît imposer et à se soumettre au gouvernement qu'ils veulent établir. Mais la question est de savoir quels droits ils ont d'en user de la sorte. Si l'on dit que les gens subjugués se soumettent de leur propre consentement, alors on reconnaît que leur consentement est nécessaire afin qu'un conquérant ait droit de les gouverner. Il ne reste qu'à considérer si des promesses extorquées, si des promesses arrachées de force et sans droit, peuvent être regardées comme un consentement, et jusqu'où elles obligent. Je dis, sans crainte, qu'elles n'obligent en aucune façon, parce que nous conservons toujours notre droit sur ce qu'on nous arrache de force, et que ceux qui extorquent ainsi quelque chose sont obligés de la restituer incessamment. Si un homme prend par force mon cheval, il est d'abord obligé de me le rendre, et j'ai toujours le droit de le reprendre si je puis. Par la même raison, celui qui m'arrache de force une promesse est tenu de me la rendre incessamment, c'est-à-dire de m'en tenir quitte, ou je puis la reprendre moi-même et la rétracter, c'est-à-dire qu'il m'est permis de la tenir ou de ne pas la tenir. En effet, les lois de la nature m'imposant des obligations seulement par leur règlement et par les choses qu'elles prescrivent, ne peuvent m'obliger à rien par la violation de leur propre règlement. Telle est l'action que ceux qui m'extorquent et m'arrachent de force quelque chose. Et il ne sert de rien de dire que j'ai promis, car il est aussi vrai que ma promesse en cette occasion ne m'engage et ne m'oblige à rien, qu'il l'est que je ne rends point juste et légitime la violence d'un voleur lorsque je mets la main dans mon gousset et que j'en tire ma bourse et la remets moi-même entre les mains du voleur qui me la demande le pistolet à la main. 187. De tout cela, il s'ensuit que le gouvernement d'un conquérant, établi par force sur ceux qui ont été subjugués et auxquels ils n'avaient pas droit de faire la guerre, ou qui ne se sont pas joints à ceux qui ont agi et combattu dans une guerre juste qu'il leur a faite, est un gouvernement injuste et illégitime. 188. Mais supposons que tous les membres d'un corps politique qui a été subjugué, se soient joints ensemble pour faire une guerre injuste et que leur vie soit à la merci et en la disposition du vainqueur. 189. Je dis que cela ne concerne point leurs enfants qui sont mineurs, car puisqu'un père n'a point de pouvoir sur la vie et sur la liberté de ses enfants, aucune de ses actions et de ses démarches ne les leur fait perdre. Ainsi, les enfants, quelque chose qui arrive à leur père, sont toujours des personnes libres, et le pouvoir absolu d'un conquérant ne s'étend que sur la personne de ceux qu'il a subjugués. Et, quoiqu'il ait droit de les gouverner comme des esclaves, comme des gens assujettis à son pouvoir absolu et arbitraire, il n'a point un tel droit de domination sur leurs enfants. Il ne peut avoir de pouvoir sur eux que par le consentement, et son autorité ne saurait être légitime, tandis que la force, non le choix, les oblige à se soumettre. 190. Chacun est né avec deux sortes de droits. Le premier droit est celui qu'il a en sa personne, de laquelle il peut seul disposer. Le second est le droit qu'il a avant tout autre homme d'hériter des biens de ses frères ou de son père. 191. Par le premier de ces droits, on n'est naturellement sujet à aucun gouvernement, encore qu'on soit né dans un lieu où il y en est un établi. Mais aussi, si l'on ne veut pas se soumettre au gouvernement légitime sous la juridiction duquel on est né, il faut abandonner le droit qui est une dépendance de ce gouvernement-là et renoncer aux possessions de ses ancêtres si la société où elle se trouve a été formée par leur consentement. 192. Par le second, les habitants d'un pays qui sont descendus des vaincus et tirent le droit qu'ils ont sur leurs biens de gens qui ont été subjugués. Ces sortes d'habitants qui sont soumis par force et contre leur consentement libre à un gouvernement fâcheux retiennent leur droit aux possessions de leurs ancêtres, quoiqu'ils ne consentent pas librement au gouvernement sous lequel elles se trouvent et dont les rudes conditions ont été imposées par force. Car le conquérant, n'ayant jamais eu de droit sur ce pays dont il s'agit, le peuple, c'est-à-dire les descendants et les héritiers de ceux qui ont été forcés de subir le joug, ont toujours droit de le secouer et de se délivrer de l'usurpation ou de la tyrannie que l'épée et la violence ont introduites, jusqu'à ce que leur conducteur les ait mis sous une forme de gouvernement à laquelle ils consentent volontairement et de bon cœur, ce qu'ils ne peuvent jamais être supposés faire, jusqu'à ce qu'ils aient été mis dans l'état d'une pleine liberté, dans lequel ils puissent choisir et le gouvernement et les gouverneurs, ou du moins jusqu'à ce qu'ils aient des lois stables auxquelles ils aient, ou immédiatement, ou par ceux qui les représentent, donné leur consentement libre, et ainsi jusqu'à ce qu'ils aient mis en sûreté tout ce qui leur appartient en propre, en sorte que personne ne puisse jamais leur en prendre rien contre leur consentement, sans quoi ils ne sauraient, sous aucun gouvernement, être dans l'état d'hommes libres, mais seraient plutôt de véritables esclaves, et des gens exposés aux fureurs et aux calamités de la guerre. Et qui doute que les chrétiens de la Grèce, qui sont descendus des anciens possesseurs de ce pays, qui est aujourd'hui sous la domination du grand Seigneur, ne pussent justement, s'ils avaient assez de force pour cela, secouer le joug des Turcs, sous lequel ils gémissent depuis si longtemps. 193. Mais accordons qu'un conquérant dans une juste guerre a droit sur les biens, tout de même que sur les personnes de ceux qui sont subjugués. Il est pourtant clair que cela n'est point. Il ne s'en suivrait pas, sans doute, que dans la suite de son gouvernement, il dut avoir un pouvoir absolu. Car les descendants de ces gens-là, étant tous hommes libres, s'il leur donne des biens et des possessions afin qu'ils habitent et peuplent son pays, sans quoi ils ne seraient de nul prix et de nulle considération, ils ont un droit de propriété sur ses possessions et sur ses biens. Or, la nature de la propriété consiste à posséder quelque chose en sorte que personne n'en puisse légitimement prendre rien sans le consentement du propriétaire. 194. Leurs personnes sont libres par un droit naturel, et quant aux biens qui leur appartiennent en propre, qu'ils soient grands ou petits, eux seuls en peuvent disposer. Autrement, ce ne serait point des biens propres. Supposons qu'un conquérant donne à un homme 1000 arpents de terre pour lui et pour ses héritiers, à perpétuité, et qu'il laisse à un autre 1000 arpents à vie, moyennant la somme de 50 ou 500 livres par an. L'un d'eux n'a-t-il pas droit sur 1000 arpents de terre à perpétuité, et l'autre sur autant pendant sa vie, en payant la rente que nous avons marquée? De plus, celui qui tient la terre de 1000 arpents n'a-t-il pas un droit de propriété sur tout ce que, durant le temps prescrit, il gagne et acquiert par son travail et son industrie, au-delà de la rente qu'il est obligé de payer, quand même il aurait acquis et gagné le double de la rente? A-t-on raison de dire qu'un roi ou un conquérant, après avoir accordé et stipulé ce qu'on vient de voir, peut, par son droit de conquête, prendre toute la terre ou une partie aux héritiers de l'un ou à l'autre durant sa vie, et pendant qu'il paie exactement la rente qui a été constituée? Ou peut-il prendre à l'un ou à l'autre, selon son bon plaisir, les biens ou l'argent qu'il aura acquis ou gagné sur les arpents de terre mentionnés? S'il le peut, alors, il faut que tous les contrats, que tous les traités, que toutes les conventions cessent dans le monde comme des choses vaines et frivoles. Tout ce que les grands accorderont ne sera qu'une chimère. Les promesses de ceux qui ont la suprême puissance ne seront que moquerie et qu'illusion. Et peut-il y avoir rien de plus ridicule que de dire solennellement, et de la manière du monde la plus propre à donner de la confiance et à assurer une possession, « Je vous donne cela pour vous et pour les vôtres à perpétuité », et que cependant il faille entendre que celui qui parle de la sorte a droit de reprendre le lendemain, s'il lui plaît, ce qu'il donne. 195. Je ne veux point examiner à présent la question si les princes sont exempts d'observer les lois de leur pays. Mais je suis sûr qu'ils sont obligés, et même bien étroitement, d'observer les lois de Dieu et de la nature. Nul pouvoir ne serait jamais exempté de l'observation de ces lois éternelles. L'obligation qu'elles imposent est si grande et si forte que le Tout-Puissant lui-même ne peut en dispenser. Les accords, les traités, les alliances, les promesses, les serments sont des liens indissolubles pour le Très-Haut. Ne seront-ils donc pas aussi, malgré tout ce que disent les facteurs aux princes du monde, des liens indissolubles et des choses d'une obligation indispensable pour des potentats qui, joints tous ensemble, avec tout leur peuple, ne sont en comparaison du grand Dieu que comme une goutte qui tombe d'un seau, ou comme la poussière d'une balance. 196. Donc, pour revenir aux conquêtes, un conquérant, si sa cause est juste, a un droit despotique sur la personne de chacun de ceux qui sont entrés en guerre contre lui, ou ont concouru à la guerre qu'on lui a faite, et peut, par le travail et les biens des vaincus, réparer le dommage qu'il a reçu et les frais qu'il a faits, en sorte pourtant qu'il ne nuise point aux droits de personne. Pour ce qui regarde le reste des gens, savoir ceux qui n'ont point consenti et concouru à la guerre, et même les enfants des prisonniers, et pour ceux qui regardent aussi les possessions des uns et des autres, il n'a nul droit sur ces personnes, ni sur ces biens. Et par conséquent, il ne saurait, par voie et en vertu de sa conquête, avoir aucun droit de domination sur ces gens-là, ni le communiquer à sa postérité. S'il use de domination sur eux et prend leurs biens, tout ce qui leur appartient, ou seulement quelques parties, il doit être considéré comme un agresseur et comme un homme qui s'est mis en état de guerre avec eux, et n'a pas un droit meilleur et mieux fondé que celui de Ingar et Uba, Danois, ontus sur l'Angleterre, ou que celui de Spartacus qui conquit l'Italie. Aussi, les peuples subjugués de la sorte n'attendent-ils jamais qu'une occasion favorable et le secours du ciel pour secouer le joug. Ainsi, malgré tout le droit que le roi d'Assyrie prétendait avoir sur la Judée par la voie de son épée victorieuse, Dieu secourut puissamment Ézéchias afin qu'il se délivrât de la domination du victorieux et du superbe empire de ce monarque. Et le Seigneur fut avec Ézéchias qui réussit partout où il alla. Il se rebella contre le roi des Assyriens et ne lui fut point assujetti. Il paraît évidemment par là qu'en secouant un pouvoir par la force et la violence, et non par le droit et la justice établie, quoique ceux qui en usent de la sorte soient traités de rebelles, on n'offense point Dieu. En cela, on ne fait que pratiquer ce que ce grand Dieu permet, approuve, autorise, quand même seraient intervenues des promesses et des conventions extorquées et arrachées de force. Si on lit attentivement l'histoire d'Achaz et d'Ézéchias, on pourra voir un exemple bien juste sur ce sujet et autorisé par le Seigneur. Car il est probable que les Assyriens subjuguèrent Achaz et le déposèrent et établirent roi Ézéchias du temps durant la vie de son père, et qu'Ézéchias fut obligé de consentir à un traité par lequel il s'engageait à faire hommage au roi d'Assyrie et à lui payer tribut.